Vous écoutez On lit pour vous.
Des propriétaires font signer à des locataires des contrats de villégiature au lieu de baux. Un texte de Zacharie Goudreau paru le 17 juin 2025 dans Le Devoir. Des propriétaires profitent d'une lacune dans le Code civil en faisant signer à des locataires un contrat de villégiature plutôt qu'un bail de logement, ce qui leur permet notamment d'exiger la remise d'un dépôt de garantie qui est interdit dans les baux résidentiels. Des pratiques que dénoncent des avocats en droit du logement et un travailleur temporaire. Un contrat de villégiature est beaucoup plus permissif qu'un bail traditionnel, puisqu'il vise à encadrer des hébergements ayant une vocation touristique. Il peut y avoir des règles très strictes dans les hôtels, tout en respectant le cadre légal, puisque leurs clients ne sont pas considérés comme des locataires résidentiels, illustre en entrevue l'avocate Valérie Black-Saint-Laurent. Le problème, c'est lorsque cette intention-là est détournée afin de vouloir s'évader des obligations que les propriétaires auraient si c'était un bail de logement réel, souligne-t-elle. Seulement depuis le début de 2025, au moins 3 décisions ont été rendues par le Tribunal administratif du logement, TAL, portant sur des locataires qui ont fait valider le contrat de villégiature qu'ils avaient signé avec leurs propriétaires respectifs comme étant plutôt un bail de logement locatif. Dans l'une de ces décisions, c'est après avoir reçu un avis d'augmentation de loyer de 133 $ que 2 locataires se sont tournés vers le TAL. Ils se disaient inquiets du fait que le contrat de villégiature qu'ils avaient signé n'était pas un vrai bail, ce qui permettait ainsi aux propriétaires de les expulser plus rapidement. Le tribunal a conclu que les locataires recherchaient un logement à long terme et que le contrat les unissant à leur propriétaire est, sans aucun doute, un bail ordinaire. L'avocat spécialisé en droit du logement, Yorick Bouyella, prévient toutefois que tant que des juges administratifs du TAL continueront de décliner compétences dans des dossiers du genre sans se pencher sur l'usage fait du logement par les locataires ayant signé de telles ententes qui limitent leurs droits, des propriétaires continueront d'exploiter une faille qui est béante dans le Code civil sans que leur pratique soit jugée illégale. Un phénomène invisibilisé. L'usage détourné par des propriétaires de contrats de villégiature est d'ailleurs un phénomène qui est en bonne partie invisibilisé, puisque les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers, qui figurent parmi les principales victimes de ces contrats de location restrictifs, vont la plupart du temps choisir de quitter leur logement plutôt que de défendre leurs droits devant le TAL, constate l'avocat Daniel Crespo, Villarreal. Il devient alors difficile de mesurer l'ampleur de ce phénomène, les locataires acceptant de témoigner sur de telles situations étant une exception, souligne-t-il. Nous avons tout de même obtenu copie du contrat de location de 6 mois signé le 1er avril 2025 par le travailleur temporaire costaricain Hubert Rojoué Arieta Rojas, âgé de 25 ans, qui a accepté de se confier au devoir. Il a raconté avoir choisi ce logement à Québec afin de disposer d'un lieu d'hébergement près du restaurant où il travaille, dans le cadre d'un permis de travail fermé d'une durée de 2 ans. Il a donc un statut précaire qui l'oblige à dépendre d'un seul employeur pour pouvoir rester au pays, souligne l'organisateur communautaire du Comité logement d'aide de Québec-Ouest, Nicolas Villamarin-Bonilla, qui a été contacté par ce locataire dans les dernières semaines. « Vivre ici m'amène beaucoup de problèmes », confie M. Arieta Rojas, dont le propriétaire serait rentré dans son logement sans préavis alors qu'il était absent. Il aurait constaté la présence d'un lit additionnel dans cet appartement, partagé par quelques colocataires, pour réduire le prix du loyer. Après avoir retiré ce lit, le propriétaire aurait contacté M. Arieta Rojas pour lui crier des insultes, ce qui a grandement ébranlé le jeune homme. Si quelqu'un t'écrit des choses comme ça au Costa Rica, tu crains pour ta vie. C'est très sérieux, lance le jeune homme, qui raconte avoir beaucoup pleuré dans les dernières semaines. Le contrat de location qu'a signé ce travailleur temporaire prend soin de mentionner qu'il ne constitue pas un bail résidentiel au sens de la loi, mais bien un bail de villégiature de courte durée ou pour une occupation temporaire. Les parties comprennent donc que le présent contrat n'est pas assujetti aux règles applicables au bout de logement, peut-on lire. Le locataire a ainsi dû payer d'avance le premier et le dernier mois du loyer, de même qu'une caution de 500 $ pour un total de 4100 $ afin de pouvoir emménager dans les lieux. Son contrat mentionne aussi que le loyer mensuel grimpera à 2050 $ par mois si son séjour est de 3 à 5 mois au lieu des 6 mois prévus. Le propriétaire se réserve par ailleurs le droit d'entrer dans le logement à tout moment, sans autorisation, de même que d'imposer des frais retenus au dépôt de garantie remis par le locataire si celui-ci nuit à la tranquillité du voisinage ou cause un bruit dans l'appartement. Or, toutes ces conditions seraient interdites dans un bail de logement en vertu du Code civil du Québec, relèvent trois avocats qui ont accepté d'analyser pour nous ce document. Une caution de sécurité et un loyer flexible. Le propriétaire en question est une entreprise de gestion immobilière. Nous avons choisi de ne pas la nommer parce qu'en 2021, elle a obtenu gain de cause devant le TAL relativement à des baux similaires. Nous ne pouvons présumer de ce que le tribunal déciderait dans le cas de Hubert Josué Arrieta Rojas. Les logements que détient cette entreprise sont offerts sur une plateforme qui propose un prix pour ceux-ci à la journée ou encore au mois. Dans le cadre de cette enquête, le journaliste du Devoir, se faisant passer pour un étudiant souhaitant étudier dans un cégep de Québec, a contacté le propriétaire afin de savoir s'il avait des logements disponibles pour le mois de juillet à Limoilou, pour une durée de 2 à 3 mois. Vous écoutez, des propriétaires font signer à des locataires des contrats de villégiature au lieu de baux, un texte de Zachary Goudreau, paru le 17 juin 2025 dans Le Devoir. Le propriétaire a alors indiqué qu'il exige une caution de sécurité de 350 $ plus le dernier mois de loyer pour louer un appartement. Il a également indiqué que le loyer demandé varie en fonction de la durée du séjour. Pour 3 mois, un appartement meublé nous était offert dans les 1350 $. Un loyer qui monterait à 1 500 $ si notre passage à Québec se limitait à 2 mois. Je ne fais pas de cadeaux. C'est l'été, tu comprends. Si tu ne restes pas tes 3 mois, tu paies le prix d'un touriste, a alors déclaré le propriétaire, qui a par la suite été informé que c'est en fait un journaliste du Devoir qui l'avait contacté. Or, exiger un dépôt de garantie est illégal pour le locataire d'un logement résidentiel, le propriétaire ne pouvant exiger que le premier mois du loyer au moment de la signature du bail. Le Code civil du Québec interdit aussi au propriétaire d'un logement de modifier le loyer pendant la durée d'un bail, y compris ceux de moins de 12 mois. Lorsque le Devoir a demandé s'il pouvait consulter un contrat de location, toujours en se faisant passer pour un aspirant locataire, le propriétaire a refusé, disant ne pas perdre de temps avec ça. Ce sont des règlements. C'est simple, simple, simple. Une vocation touristique. Dans un courriel au Devoir, l'avocat du propriétaire indique que les pratiques de son client consistent essentiellement à louer les lieux de manière temporaire à divers types de clientèle et pour divers besoins. Il est cependant toujours prévu que le besoin n'est jamais d'y établir son lieu de résidence, et ce, au même titre qu'un hôtel ou qu'un Airbnb, ajoute l'avocat. Les contrats de son client n'ont donc pas à respecter les règles entourant les baux conventionnels, affirme-t-il. Il cite à cet égard deux décisions rendues en 2021 par le TAL que Le Devoir a consultées, portant sur des recours menés par des locataires de son client qui réclamaient notamment un remboursement du dépôt de garantie qu'il lui avait remis. Tout en reconnaissant que les contrats unissant ces individus aux propriétaires ne concernaient pas réellement des locations de villégiature, comme le mentionnait le document de location signé par les parties, le TAL a décliné compétence. Dans les deux cas, le tribunal a conclu que les locataires et leurs propriétaires ne sont pas liés par un bail de logement. Ainsi, l'avocat du propriétaire fait valoir que les contrats signés par son client avec ses locataires sont vraisemblablement conformes aux exigences légales applicables selon les deux décisions mentionnées, considérant qu'il ne s'agit pas de baux de logement. Tout dépend de l'usage du logement. Or, si un propriétaire est dans le droit, en vertu du Code civil, de conclure un contrat de villégiature avec des locataires, il ne peut le faire que si l'intention réelle d'occuper ceux-ci est de nature touristique, relève Maître Black Saint-Laurent. Une décision de la Cour d'appel rendue en 2015, largement citée depuis, a d'ailleurs défini un lieu de villégiature pouvant faire l'objet d'un tel contrat comme un hébergement destiné à un séjour de repos, de vacances ou aux fins de récréation à la campagne ou dans un lieu de plaisance. Il ne peut donc s'agir de la résidence habituelle du locataire, ajoute la décision, qui précise que c'est l'usage auquel l'immeuble est destiné qui compte, pour déterminer si un contrat de villégiature s'applique ou non. La jurisprudence est très claire, à savoir que la villégiature, elle doit être lue dans son sens ordinaire, c'est-à-dire pour des vacances. Donc, à partir du moment où des gens viennent s'installer pour travailler ou pour étudier, ils viennent résider, certes de manière temporaire, mais de façon continue, et on n'est pas du tout dans la villégiature, mais plutôt dans une location résidentielle devant respecter les règles entourant un bail de logement traditionnel, note Daniel Crespo, Villarreal. Ainsi, le contrat qu'a signé le locataire Hubert Josué Arieta Rojas avec son propriétaire, ce n'est pas du tout un contrat de villégiature, estime l'avocat, qui qualifie d'ailleurs son contenu de vraiment abusif. Une lacune dans le Code civil. L'avocat constate néanmoins qu'une lacune existe dans la loi quant au caractère temporaire de la location pouvant être encadré par un tel contrat. Une zone grise qui désavantage grandement certains locataires, complète Maître Black Saint-Laurent. Bref, ce n'est pas parce qu'un propriétaire va outrepasser ses obligations en décidant que c'est un bail de villégiature que le tribunal va nécessairement considérer que c'est un bail de villégiature, souligne l'avocate. Il revient toutefois au locataire ayant signé un tel contrat de faire valoir devant les tribunaux que son intention était de faire du logement loué sa résidence principale pendant quelques mois, et non un lieu de repos dans le contexte de vacances, souligne Daniel Crespo Villarreal. Il court alors le risque que le TAL décline compétence dans ce dossier s'il juge que le contrat de location signé a une vocation commerciale et non résidentielle, ajoute pour sa part Maître Black Saint-Laurent. Il devra alors se tourner vers la Cour du Québec. Des Québécois ont déjà de la difficulté à faire valoir leurs droits contre leurs propriétaires quand ils sont dans des situations difficiles, en amenant ça au TAL. Alors, imaginez la réalité de personnes qui ne sont pas canadiennes, pas québécoises, qui arrivent dans un système différent du leur, font face à des situations d'abus et doivent naviguer dans un système qui est très complexe, soulève l'avocate. Daniel Crespo Villarreal plaide ainsi pour des changements législatifs afin de mieux baliser les circonstances dans lesquelles un propriétaire peut faire signer un contrat de villégiature à ses locataires, afin d'éviter qu'ils puissent contourner les règles s'appliquant au bail d'un logement résidentiel. Ce qui pourrait, par exemple, se faire en précisant, dans le Code civil, qu'il faut présumer que les séjours de 6 mois ou plus qui se font à des fins de travail doivent être encadrés de la même façon que les locations traditionnelles. La personne qui peut améliorer la situation, c'est le législateur, estime lui aussi l'avocat spécialisé en droit du logement, Antoine Morneau-Sénéchal. Entre-temps, Hubert Josué Arrieta-Rojas n'entend pas prendre sur lui le fardeau, difficile à porter, de tenter de convaincre les tribunaux que l'usage qu'il fait du logement loué est celui qui doit être encadré par un bail résidentiel. « Je veux juste partir », lance le locataire, qui a déjà trouvé un autre logement où il a emménagé au début du mois de juin. C'était « Des propriétaires font signer à des locataires des contrats de villégiature au lieu de baux », un texte de Zachary Goudreau, paru le 17 juin 2025 dans Le Devoir.
C'est Québécois qui parlent plusieurs langues au quotidien. Un texte de Sarah R. Champagne, paru le 21 juin 2025 dans Le Devoir. Les Québécois seraient-ils les plus francophones et les plus plurilingues des habitants de l'Amérique du Nord? Qu'ils soient immigrants ou non, plus de la moitié des Québécois ont déclaré dans le recensement de 2021 être capables de soutenir une conversation dans deux langues ou plus, selon Statistique Canada. Dans la métropole, cette proportion grimpe à 70 %, ce qui place Montréal au deuxième rang, derrière la région d'Ottawa-Gatineau. La proportion est plus forte au Québec qu'ailleurs au Canada, ou encore qu'aux États-Unis, où environ une personne sur cinq se déclare multilingue. Il ne s'agit pas nécessairement de gens qui utilisent deux langues ou plus systématiquement à la maison. Parmi les 25 personnes qui ont spontanément répondu à l'appel du devoir, la plupart ont dit prononcer des mots dans au moins trois langues chaque jour. Et cette gymnastique n'est pas pratiquée que par les nouveaux arrivants. Julie Audet, qui dit avoir été élevée exclusivement en français, en région, utilise deux autres langues au travail. Au travail, je dirais que c'est 40 % français, 40 % anglais et 20 % espagnol, dit la copropriétaire d'Apex Coffee Imports, qui importe du café en grande quantité. Établie à Montréal et à Calgary, son entreprise produit toute une documentation bilingue et fait affaire avec des producteurs qui parlent aussi espagnol. Madame Audet voyage beaucoup, mais sa vie privée continue de se passer principalement en français, relate-t-elle depuis le Burundi. À l'inverse, pour Citlali Cruz Cruz, originaire du Mexique, les conversations avec ses amis les plus proches se déroulent principalement en espagnol, alors que son travail s'effectue majoritairement dans la langue officielle du Québec. Consultante en immigration dans une entreprise qui recrute des travailleurs temporaires, elle salue l'effort de ses collègues pour lui faire comprendre les expressions québécoises. Ayant atterri d'abord en Colombie-Britannique en 2018 pour y faire une maîtrise en politique publique, elle a fait le choix du Québec en 2021. Le côté multiculturel de Montréal m'a beaucoup plu. C'est ce qui résonne avec moi. Ses ex-conjoints ont souvent voulu pratiquer leur espagnol avec elle, et ça lui plaisait bien. À la maison, c'est l'endroit où j'ai le plus envie d'être dans ma bulle, dans ma langue maternelle, dit-elle, même si elle écoute de plus en plus la télévision québécoise, notamment les séries Indéfendable, Empathie et Gâté pourri. Quant à l'anglais, elle le parle aussi, en côtoyant chaque semaine son beau-frère, un anglophone de Montréal, qui bascule aussi souvent vers le français, ayant une mère francophone. Préserver et transmettre le plurilinguisme. Si elle devait avoir un jour des enfants, Mme Cruz-Cruz aimerait d'ailleurs préserver le côté plurilingue de son quotidien en vivant ici avec une bonne dose de culture mexicaine. C'est beau d'avoir des événements comme la Saint-Jean ou les Franco, où tout le monde se sent invité. C'est plus difficile d'apprendre une langue par obligation, analyse-t-elle. Olivia Stroz-Breton se sent, quant à elle, beaucoup moins divisée qu'à l'adolescence entre les langues qu'elle maîtrise. Sa mère, d'origine polonaise, lui a toujours parlé en anglais, et son père, en français. Eux se parlaient dans leurs langues respectives, et je n'ai pas d'accent dans les deux langues, dit celle qui a été élevée dans le quartier, parc extension, à Montréal. Aujourd'hui, mariée à un Montréalais arrivé de la Pologne à l'âge de 7 ans, la mère de deux enfants alterne entre trois langues chez elle. Sa fille apprend en outre l'italien à l'école. S'il faut que je coche une langue dans un formulaire, ma loyauté est égale envers le français et l'anglais. Il n'y en a pas une qui prédomine, indique Mme Stroz-Breton. Mais il y a des moments dans sa vie où c'est le polonais qui prend le dessus. Il y a des mots que j'ai utilisés seulement en polonais toute ma vie. Par exemple, armoire ou robe de chambre. Et si je dois rappeler certaines choses à mes enfants, insister sur quelque chose, ce sera en polonais, dit-elle en riant. Son emploi dans le domaine de la justice réparatrice l'amène à consulter des sources en français, alors que ses principaux amis ont aussi des cerveaux bilingues, alternant sans gêne entre les langues, sans même le remarquer. Ça n'empêche pas qu'elle surveille de près le niveau de français de l'école bilingue que ses enfants fréquentent. À la naissance de sa fille, elle espérait que son mari lui parlerait principalement en polonais pour lui transmettre une grande richesse. Mais son souci à lui était surtout de pouvoir communiquer avec ses enfants sans barrière. Deux poids, deux mesures. Les parents immigrants peuvent en effet ressentir de l'isolement s'ils n'apprennent pas le français et, d'un autre côté, ils sont incités à transmettre leur héritage. Quand j'étais plus jeune, j'étais un enfant traducteur et j'ai aussi travaillé comme consultant funéraire pour la communauté chinoise, explique André Ho. Il a vite saisi qu'il existait un double standard pour les enfants d'immigrants comme lui. La famille nous dit « Vous devez apprendre le français pour vous intégrer ». Mais on joue aussi avec « Vous êtes des étrangers, il faut maîtriser votre langue maternelle ». Il choisit encore cantonais comme langue maternelle dans le recensement, mais il doit faire beaucoup d'efforts pour le maintenir. Il dit consulter des médias chinois pour entretenir son vocabulaire, mais ajoute du même souffle « Mais je ne les lis pas, c'est trop d'investissement ». Le français est aujourd'hui la langue qu'il maîtrise le mieux. Si j'ai besoin d'être créatif, de me défendre ou de parler de mes émotions, c'est en français que je le fais. Mais si j'ai besoin de m'affirmer dans toutes mes identités, je mets de l'avant mon côté chinois. Il ne voit pas ces différentes langues comme des langues en compétition. Il les conçoit plutôt comme un pont culturel et linguistique, et même plus. C'est grâce au polyglottisme que je peux mieux identifier les tournures uniques, les référents de la langue. C'est cette altérité qui me fait mieux aimer toute la finesse de la langue. La question « D'où viens-tu? » ne le fait pas sursauter. Il la voit comme une occasion d'être ambassadeur de sa réalité. Diego Kremer, avec son français presque parfait et son accent persistant, n'a pas fini de répondre à cette question non plus. Surtout quand il s'applique à construire une grange sur sa terre à Lambton, aux limites de la Beauce et de l'Estrie. Parti de l'Argentine à 27 ans, il est arrivé à Montréal en 1999 pour étudier la scénarisation à l'Université Concordia. Il s'est rapidement rendu compte que, sans le français, il ne s'en sortirait pas à Montréal. Après avoir suivi des cours du soir à l'Université du Québec à Montréal, il est entré à la salle de rédaction de Radio-Canada International. Aujourd'hui, je suis complètement ancré. Je vais mourir ici, affirme celui qui a désormais passé une plus grande partie de sa vie au Québec qu'en Argentine, qui dialogue en trois langues avec son adolescent aux fortes convictions souverainistes et qui n'hésite pas à déclarer son amour pour la province. Il dit que le français a pris le dessus dans sa vie, notamment en raison de sa conjointe francophone et des enfants qui le corrigent tout le temps, ce qu'il apprécie, précise-t-il. Après avoir longtemps travaillé pour des organisations environnementales, il collabore aujourd'hui avec l'Université de Sherbrooke pour des recherches en finance et en biodiversité, où la plupart des sources sont en anglais. M. Kremer connaît aujourd'hui tout le monde sur le rang à Lambton, lui qui sait aussi l'origine du nom du village de 1600 habitants. C'est en fait le nom que lui a donné Lord Durham, cet administrateur britannique envoyé après les révoltes des Patriotes et qui a décrit, dans un célèbre rapport, les Canadiens français comme un peuple sans histoire et sans culture. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a pas un anglophone à Lambton. C'est la victoire la plus absolue du français, souligne Diego Kremer avec ironie. C'était « Ces Québécois qui parlent plusieurs langues au quotidien », un texte de Sarah R. Champagne, paru le 21 juin 2025 dans Le Devoir.
L'art de vieillir, quand les aînés s'engagent par la création durable. Un texte de Marie-Paul Berthiaume, paru le 9 juin 2025 dans La Source. L'atelier Art éco-responsable, initié par le Carrefour 50+ de la Colombie-Britannique, réunit des aînés de Nanaimo, Vancouver, Chilliwack, Prince-George et Nelson autour d'une pratique artistique alliant expression créative et conscience écologique. Le Carrefour 50+ CB est un organisme à but non lucratif qui a pour vision d'enrichir le bien-être et la vitalité des francophones et francophiles âgés de 50 ans et plus en Colombie-Britannique, explique la directrice de l'organisme, Nada El Hamdadi. Nous rassemblons donc cette communauté autour d'activités porteuses de sens. Comme plusieurs ateliers sont virtuels, j'ai choisi d'offrir celui-ci en présentiel. 5 approches, un même engagement. Nada El Hamdadi a donné carte blanche aux organisations L'Amicale 50+ Vancouver, l'Association des francophones de Nanaimo, AFN, l'Association francophone de la vallée du Fraser, le Cercle des Canadiens français de Prince-Georges et l'Association des francophones des Kootenays West, AFKO, qui ont approché des artistes aux sensibilités distinctes. Installée sur l'île de Vancouver, la fondatrice d'Elix Art Therapy, Amélie Blanchard, puise dans sa formation en arts visuels et en design à Concordia, en psychologie à l'Université de Montréal, ainsi qu'en art-thérapie au réputé Kootenay Art Therapy Institute de Nelson, pour offrir un atelier rassemblant expression créative et conscience environnementale à l'AFN. L'art-thérapeute, à la barre de l'atelier Art éco-responsable, se concentre sur le bien-être et la pleine conscience. Chaque semaine, je leur fais découvrir des artistes pour inspirer les participants. La semaine d'avant, on a créé dehors avec des éléments naturels, alors que ce matin, on a travaillé avec des matériaux recyclés, retailles de tissus, vieux projets, objets du bac de recyclage. À l'est de la province, à Nelson, Émilie Leblanc-Kromberg travaille en collaboration avec l'AFKO. L'artiste visuel engagé propose un atelier s'inscrivant dans une réflexion plus conceptuelle sur l'environnement, la consommation et l'utilisation des matériaux. Son approche s'appuie sur des courants artistiques historiques liés à la réutilisation. Depuis que je participe au Haute Trash Fashion Show en tant que créatrice de mode, je réfléchis davantage à la surconsommation et au recyclage. Comme artiste et animatrice d'ateliers d'art, j'ai de plus en plus de mal à acheter du neuf pour créer. Pour moi, l'art est un langage. Qu'est-ce qu'on exprime par ce qu'on fait? Demande-t-elle. Place à la créativité. Malgré leurs approches différentes, les deux animatrices partagent des valeurs communes. Démocratiser la création et valoriser le processus plutôt que le résultat final. En art-thérapie, Amélie Blanchard remarque souvent que les jeunes cessent de créer vers 13 ou 14 ans, faute de confiance. Avec la pratique, ils auraient autant progressé que ceux qui ont continué. Tout le monde peut créer. L'important, ce n'est pas la beauté, mais le geste et l'apprentissage, indique-t-elle. L'objectif principal de l'art-thérapeute est de transmettre un goût pour la création. Pour moi, chaque acte créatif, cuisiner, jardiner, créer, apporte du bien-être. Si une participante repart inspirée, ma mission est accomplie. L'une d'elles a même reconduit l'atelier avec ses amis, ce qui est beau à voir. Émilie Leblanc-Kromberg abonde dans ce sens. Active depuis plusieurs années au sein du club créatif de l'AFKO et du centre d'artistes autogéré Oxygen Art Center à Nelson, elle cultive un profond dévouement pour la créativité. Chaque fois que j'entends « je ne suis pas bonne en art », je trouve ça triste, confie-t-elle. On n'a pas besoin de connaître les techniques pour créer. L'art n'est pas une question de beauté ou de laideur, mais une occasion de s'exprimer librement, comme le font les enfants. Il n'y a pas d'erreur en art, juste des préférences. L'essentiel, c'est de créer pour soi ou ensemble, dans le plaisir. L'importance de créer des liens. Les animatrices soulignent toutes deux l'importance de cultiver le lien social, essentiel au mieux-être. L'atelier mise sur le plaisir de créer ensemble et sur l'apprentissage, car c'est en apprenant qu'on reste jeune, conclut Émilie Leblanc-Kromberg. Un concours virtuel déterminera les trois lauréats prochainement. C'était « L'art de vieillir, quand les aînés s'engagent par la création durable », un texte de Marie-Paul Berthiaume paru le 9 juin 2025 dans La Source.
Mireille Levert, Bonheur poétique. Une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu, parue le 21 octobre 2024 dans Les Libraires. Mireille Levert, ne semble pas avoir perdu son cœur d'enfant, et c'est probablement la raison pour laquelle ses albums plaisent autant aux jeunes lecteurs et lectrices. Ses univers doux, drôles ou éclatés, rejoignent les sphères du rêve et de l'imaginaire, propres aux merveilles de l'enfance. Stimulée par le travail créatif, l'autrice et illustratrice ne cesse depuis bientôt 40 ans d'inventer des manières de remplir d'étincelles le regard et l'âme des petits et des plus grands. Vous êtes dans le milieu de l'illustration jeunesse depuis plus de 30 ans. Et depuis quelques années, vos albums accordent particulièrement une grande place à la poésie, comme en témoigne votre petit dernier, « Poème monstrueux », publié cet automne aux éditions de La Bagnole. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'explorer ce filon? Je voulais créer un livre différent après réflexion, tout s'est éclairé. On me répète depuis longtemps que mes images, mes textes sont poétiques. Ma façon d'écrire en jouant avec les mots, le rythme, la musicalité. Cette douce fantaisie dans mes illustrations, ça coule de source chez moi. De cet élan est né « Quand j'écris avec mon cœur, puis un jour je bercerai la terre ». Poème monstrueux, s'adressant à des enfants plus petits, poursuit cette lancée en ajoutant un élément humoristique. Vous êtes illustratrice, mais également autrice. Qu'est-ce qui surgit en premier dans votre tête? Des images, des couleurs et des formes ou le texte, l'histoire et les mots? Souvent, le texte. J'adore les mots, l'écriture. J'écris, je dessine, je redessine, je réécris. Rapidement, il s'établit un jeu de vase communicant entre les deux. En parallèle à l'écriture, à chacun de mes livres, une image s'impose, un rêve éveillé. Une petite esquisse griffonnée devient un ancrage visuel me guidant et représentant l'essence du livre à venir. Pour Poèmes monstrueux, j'ai écrit les poèmes au début de la pandémie. Je tournais en rond, j'avais besoin de m'amuser, de faire rire. Que souhaitez-vous transmettre à travers vos livres? L'amour de la poésie, dans le sens d'un accès à une vie plus grande que soi. De manière plus terre à terre, en rencontrant des enfants avec des ateliers de poésie, textes et illustrations. Le goût de la lecture, le plaisir de l'écriture, la découverte de la lecture à haute voix. Le constat sur le terrain m'impressionne. Avec la poésie, un nouveau territoire d'apprentissage s'ouvre aux enfants. Que de la joie! Vous avez fait des études en arts plastiques visuels à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous ayez décidé de vous consacrer à la littérature jeunesse? Mes études en arts visuels terminées, je cherche un emploi. J'ai toujours aimé les livres. Un jour, en bouquinant à la librairie La Courte Échelle, j'entends « On cherche quelqu'un pour le week-end ». Voilà, c'est parti. Je deviens libraire malgré moi. Pendant plus d'un an, je découvre, émerveillé, des albums jeunesse du monde entier extraordinaires. Bertrand Gauthier, mon patron à l'époque, ferme la librairie. Il veut se concentrer sur le développement de sa maison d'édition et m'encourage à prendre mes ailes. Je commence patiemment à me promener de maison d'édition en maison d'édition avec un immense portfolio. Vous allez parfois dans les écoles pour rencontrer les petits lecteurs et lectrices. Que vous apprennent-ils? Quand on travaille avec les petits, on apprend assez vite à ne pas se prendre trop au sérieux. Leur désir d'apprendre est immense, emprunte souvent des chemins inattendus. Avec leurs petites mains, leur grand cœur, une vision du monde peu orthodoxe, ils sont de vrais poèmes sur pattes. Dans un questionnaire proposé par les éditions Dominique et compagnie, vous dites « Mes meilleures idées m'arrivent quand je n'ai aucune attente. Je suis guidé juste par le seul désir de m'amuser. qu'est-ce qui vous amuse? Les créateurs, en général, sont des cueilleurs, des voleurs, des faiseurs de liens. Je possède cette ouverture, cette attention qui peut générer tout à coup une étincelle. J'observe, j'écoute, je m'amuse. Les humains me touchent profondément. Je suis ému de plus en plus par la beauté de la nature, les forêts, les oiseaux, les arbres. Ma perception s'affirme, je me sens minuscule dans un univers immense, mystérieux. Votre élan vers la poésie prend son envol avec la publication de « Quand j'écris avec mon cœur, la bagnole », album pour lequel, par ailleurs, vous avez été finaliste pour le prestigieux prix TD. Racontez-nous comment il a pris forme. Mon intention, clarifiée, d'écrire un livre de poésie pour les enfants. Quel déferlement! Un débordement de mots, de phrases, de poèmes accompagnés d'esquisses enlevantes. Le mot « magique », « poésie » me permettant de tout écrire. De puiser dans les questionnements de mon enfance toujours sans réponse. J'étais tellement heureuse. Quel créateur ou créatrice admirez-vous le plus? Au Québec, il y en a tellement. Je vais plutôt vous parler de mes deux coups de cœur de l'année. En littérature, un tout petit livre, « Le Roitelet » de Jean-François Beauchemin. Une splendeur de sensibilité, de délicatesse. En images, « Tokedo », une série de gravures sur bois de Hiroshig, un maître graveur japonais, pour les couleurs et les compositions formidables. Vous avez remporté, deux fois plutôt qu'une, un prix littéraire du gouverneur général, d'abord avec « Dormez bien, Madame Ming », 1993, Annick Press, puis avec « Une île dans la soupe », 2002, les 400 coups. Est-ce que les marques de reconnaissance stimulent votre création? La reconnaissance? Les prix me tombent dessus en étoiles filantes. Je suis ébloui, je saute de joie. Moi? Vraiment moi? Quelques jours plus tard, je suis déjà ailleurs. En travaillant, je ne pense jamais à ça. Bien sûr, l'aspect monétaire est toujours bienvenu et devient en quelque sorte une bourse de travail très appréciée. Y a-t-il un projet de livre que vous rêvez secrètement d'accomplir? Depuis 2 ans, j'expérimente l'estampe à l'atelier circulaire, un centre d'artistes en arts imprimés, en réalisant des monotypes. Je roule, je gratte, je frotte, je peins sur des plaques de plexiglas. Puis, j'imprime sur du papier à l'aide de magnifiques presses anciennes. Vous dire le bonheur. Beaucoup de liberté de geste et d'interprétation. Je rêve de me servir de cette approche en créant des images pour accompagner un texte, pas nécessairement pour les enfants, rendant hommage à la beauté de la nature foisonnante. C'était Mireille Levert, Bonheur poétique, une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu, parue le 21 octobre 2024 dans Les Libraires.
Le prodige des échecs aux multiples passions. Un texte de Marek Cauchy-Vaillancourt, paru le 23 juin 2025 dans La Presse. Voyager pour jouer aux échecs contre les meilleurs au monde. Voilà ce que vit le Québécois de 10 ans, Ronak Ramzan, double champion canadien de sa catégorie d'âge, aussi adepte de soccer, de piano, de cube Rubik, de lecture et de dessin. Depuis le début de 2024, le jeune joueur d'échecs est allé en Égypte, en Italie et en Géorgie participer à des compétitions internationales. « Je pense qu'il est meilleur que moi au même âge », dit en entrevue le champion du monde des moins de 18 ans en 2022, Sean Rodrigue Lemieux, qui a grandi dans Hochelaga-Maisonneuve. Lors d'une simultanée, soit un match où un fort joueur affronte en même temps de nombreux adversaires, Ronak Ramzan a réussi à arracher une victoire contre Sean Rodrigue Lemieux. Il a été le seul à réussir un tel exploit. Ronak m'a impressionné, dit celui qui est deuxième parmi les meilleurs joueurs actifs au Canada. Je pense qu'il a autant de potentiel, sinon même plus que moi. En novembre 2024, Ronak Ramzan a pris l'avion avec son père, Amit Ramzan, pour aller au championnat du monde cadet à Monte Silvano, en Italie. La deuxième partie de ce tournoi était probablement une de mes meilleures parties d'attaque à vie, estime le jeune joueur d'échecs. Lors de celle-ci, il a progressivement mis de la pression sur la position de son adversaire, qui a fini par abandonner, l'échec et mat étant devenu inévitable. Ronak Ramzan venait de remporter une victoire contre un fort joueur en route vers une 33e place dans ce tournoi réunissant 162 joueurs de l'élite mondiale des moins de 10 ans. La chose que j'ai aimée le plus, c'était que la nourriture était vraiment délicieuse, dit-il, un sourire au visage. Soccer, dessin et cube Rubik. La vie du jeune Ronak ne se résume pas aux échecs. Je pense qu'il est plus passionné par le soccer que par les échecs, lance en riant sa mère, Divya Udayakumar. Les échecs et le soccer sont opposés. Aux échecs, c'est beaucoup plus à propos de l'esprit. Le soccer est plus physique, dit Ronak pour expliquer sa passion du soccer. Il peut aussi passer des heures à dessiner, dit sa mère. Son père, Amit Ramzan, en rajoute. Je suis peut-être biaisé, mais je crois quand même, d'une manière semi-objective, qu'il est naturellement doué au dessin. Oh, je sais aussi comment résoudre un cube Rubik, lance Ronak, avant d'aller le démontrer en quelques minutes. C'est important pour moi qu'il ait plusieurs facettes, estime Divya Udayakumar. Beaucoup de jeunes contre qui il compétitionne font l'école à la maison et ne font que des échecs, dit son père, ingénieur en informatique. Son enfance serait perdue s'il ne faisait que jouer aux échecs. Aller à l'école est important pour se faire des amis. Né dans l'État de Kerala en 2014, en Inde, Ronak est arrivé au Québec à l'âge de 5 ans. Apprendre le français n'a pas été difficile, sauf pour le masculin et le féminin. Ses parents n'ont aucune inquiétude, citant les récents examens de français du ministère qu'a passé leur fils. Deux tournois, 20 000 $. Concilier école et échecs amène toutefois à plusieurs sacrifices, alors que le jeune Ronak doit parfois manquer des jours d'école pour participer à des tournois. Pour Divya, l'école est essentielle. L'éducation, c'est la base de tout. On ne sait pas ce qu'il va vouloir faire plus tard. Pour le moment, Ronak se voit devenir ingénieur automobile. Avoir suffisamment de sommeil est parfois difficile, avec des matchs hebdomadaires qui finissent fréquemment vers 22h30. Heureusement, l'école est très conciliante en le laissant manquer la première demi-heure de la journée, dit Divya. Si jouer aux échecs ne demande pas énormément de matériel, un jeu et une horloge, les coûts s'accumulent vite pour les parents de jeunes joueurs d'échecs de niveau international, avec l'avion, l'hôtel et la nourriture. Uniquement pour participer au tournoi en Géorgie et en Italie, les parents de Rona Karamzan ont dû dépenser pas moins de 20 000 $. L'aspect financier, ça vous draine, souligne Divya Udayukamar. Si on veut développer les échecs au Canada, il devrait y avoir plus de financement, croit-elle. Beaucoup de jeunes talentueux n'ayant pas la chance de participer à des tournois internationaux par manque de moyens. Le signe d'un champion. Toutes les semaines, Ronak est entraîné par le grand maître indien Gita Narayanan Gopal. Le titre de grand maître est le plus difficile à atteindre aux échecs, avec seulement 1297 joueurs actifs qui le détiennent dans le monde sur plus de 600 millions de joueurs, selon la Fédération internationale des échecs. Rona Karamzan explique. On commence le cours avec des problèmes tactiques, puis on analyse mes parties, et après ça, il me montre des parties modernes pour améliorer ma compréhension générale du jeu. Ronak suit également des cours de groupe avec le grand maître ukrainien Alexander Golosh-Chapov, qui a aidé plusieurs jeunes joueurs à devenir grand maître. L'organisateur de tournois au Club d'échecs de Montréal, Sylvain Millette, qui suit Ronak Ramzan depuis 3 ans, essaie d'être un soutien psychologique. Récemment, Ronak était en pleurs après avoir perdu un match déterminant. Sylvain Millette lui a dit qu'il pouvait être fier, qu'il avait joué tout un tournoi. Le grand maître, Sean Rodrigue Lemieux, est très enthousiaste quant à l'avenir de Ronak Ramzan. Il est bien entouré. Ses parents le soutiennent. Il fait beaucoup de tournois, dit-il. Dès qu'il finit un match, il veut en jouer un autre. Ça, c'est le signe d'un champion. En rafale. Quelles sont ses ouvertures préférées? Avec les blancs, j'aime jouer B3 ou G3 au premier coup. Ça, ce sont pour les parties pour le plaisir. Pour les parties sérieuses, j'aime jouer la Sicilienne, la Nimzo-Indienne ou E4 avec les blancs. Quelle est la partie dont il est le plus fier? Une victoire contre Bator Sambuev. C'est la première fois que je battais un grand maître dans une partie classique. Quelle est son idole échiquéenne? Bobby Fischer! Son style de jeu est tellement fluide, logique. Il n'y a pas de complications folles. C'était le prodige des échecs aux multiples passions. Un texte de Marek Cauchy-Vaillancourt, paru le 23 juin 2025 dans La Presse.
Suresh et le Yukon, une chronique de Xavier Racine parue le 26 juin 2025 dans l'Aurore boréale. Parmi les thèmes de mon aventure nomade, je cherche à connecter avec des locaux vivant dans différentes cultures tout en étant en quête de l'inattendu. Voici une rencontre qui se déroule en 2 temps. Quelques jours avant mon arrivée au Népal, je lance une perche sur le site Couchsurfing. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un site où des personnes offrent d'héberger des voyageurs chez eux gratuitement. Il était très populaire jusqu'en 2018, puis un abonnement mensuel obligatoire lui a fait piquer du nez. Je partage un voyage public à Katmandou. Surprise! je reçois près de 30 offres en 3 jours, tellement que j'ai dû retirer mon annonce. Parmi ces offres, un homme, Suresh, propose juste une rencontre. Il souhaite me parler du Yukon. Surpris qu'il connaisse cette région éloignée, je dois satisfaire ma curiosité. Alors on se rencontre pour souper à ma première soirée à Katmandou. J'ai compris tranquillement durant mon séjour qu'une grande partie des Népalais rêvent de migrer au Canada. Par contre, ce cher Suresh, lui, était allé plus loin que la majorité. Il était tombé sur le Yukon et c'était son rêve d'y emménager. Ainsi, on a discuté longuement à ce sujet. C'était étrange de nommer des endroits spécifiques du Yukon à un Népalais au Népal et qu'il comprenne de quoi je parle. Bref, il insiste que, la prochaine fois que je passe dans la capitale, il souhaite m'héberger chez lui. 2 mois plus tard, j'arrive de Lumbini. Il ne reste que 2 nuits avant mon départ. Alors j'envoie un message à Suresh qui m'invite pour ma dernière nuit. Dans la culture népalaise, si tu te maries, tu quittes la maison. Sinon, tu vis avec ta famille. Parents avec frères et sœurs non mariés. Dans sa famille, seule une de ses sœurs était mariée. Lui et une sœur étaient âgés de plus de 33 ans, donc il est trop tard pour le mariage. Enfin, la cadette de 25 ans était toujours aux études. Autrement dit, Suresh vit avec 2 de ses 3 sœurs et sa mère. Ce qui a rendu ce moment mémorable par-dessus tout, c'est que j'étais le premier étranger à entrer dans la maison familiale. J'ai eu droit à toute une réception. Sa mère était si fière de m'offrir un repas préparé avec amour. Elle me regardait manger pour voir si j'aimais la nourriture et s'assurait que mon assiette soit remplie jusqu'à ce que j'abandonne, la peau du ventre tendue. C'était excellent. Alors que je pensais avoir déjà conclu de Népal, un moment des plus précieux m'attendait à la toute fin. Cette soirée-là, nous avons discuté longuement avec la fratrie. Ils étaient si curieux de connaître mon parcours au Népal et de comprendre le Canada, plus particulièrement le Yukon. Le matin, je me réveille doucement au son du rituel matinal de la mère autour de la maison. Chaque matin, elle exerce la même routine pour purifier la maison. Elle se promène avec des chandelles, allume de l'encens, récite des prières et plus. À la suite de mes séjours dans plusieurs autres familles népalaises, je comprends un peu mieux les subtilités qui se déroulent autour de moi. Enfin, ce moment mémorable s'est conclu avec une partie de football matinale avec des amis. Le Népal restera spécial et je souhaite, un jour, pouvoir héberger mon ami Suresh en terre yukonaise. Namasté et passez un bel été. C'était « Suresh et le Yukon », une chronique de Xavier Racine parue le 26 juin 2025 dans l'Aurore boréale.